Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 131, à partir du verset 1 au verset 3. Psaume 131, à partir du verset 1 au verset 3. Dimanche, il y a un petit qui est venu à l'entrée de l'église. Moi, je me suis précipité à l'extérieur pour pouvoir saluer tout le monde. Et il y a un petit qui est venu me voir et il me dit, est-ce que je peux avoir un bout de pain ? Et il a traversé le hall d'entrée, il y avait plein de monde, sa maman qui le cherchait, mais lui il est venu parce qu'il avait besoin de quelque chose. Et je me dis, Seigneur, il faudrait qu'on ait cette même attitude, de ne pas nous laisser arrêter par quoi que ce soit ou qui que ce soit. On sait ce qu'on a besoin et on y va. Et à votre avis, quelle a été la réponse pour le petit ? Bien sûr. Est-ce que vous pensez que quand on se rapproche du Seigneur, avec l'attitude d'un enfant, est-ce que le Seigneur, est-ce qu'il peut dire autre chose que « Oui, mon enfant ». David exprimera cette prière. Et en lisant ce texte, j'ai été interpellé par les propos, mais je voudrais les examiner avec vous. David dira « Éternel, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Comme un enfant sevré auprès de sa mère, mon âme est en moi comme un enfant sevré. Israël, attends-toi à l'Éternel, dès maintenant et à toujours. » Tel qu'un enfant, il est question pour nous de ne pas avoir quelque chose de notre vie qui pourrait être un poison pour notre âme. Qu'est-ce qu'est un poison ? Pourquoi David parlera et dira qu'il est question de ne pas avoir dans son cœur de l'arrogance ou un regard hautain ? C'est du poison pour notre âme. Et quand on s'approche de Dieu, ce n'est pas vraiment ça que Dieu veut voir dans notre vie. Je dirais même qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des traces dans notre vie. Certes, dans notre passé, ça faisait partie, non ? Si on le reconnaît un peu, on devrait se dire qu'on était arrogant. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire, Seigneur, merci d'avoir libéré mon cœur de ça ? Un cœur arrogant. L'arrogance ou orgueil est essentiellement l'indépendance et la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Sommes-nous obéissants à Dieu ? Silence. On médite. Il y a des choses que Dieu nous demande, hein, et on a du mal. Alors ça ne veut pas dire, parce qu'on prend un temps de réflexion, on se dit « Seigneur, comment je vais faire ?» Ce n'est pas parce qu'on prend un moment de réflexion et qu'on est forcément dans l'orgueil, non. Mais si on prend une position qui n'est pas celle que le Seigneur nous demande, à quelque part, on prend une position qui fait face à Dieu et qui s'oppose à la volonté de Dieu pour notre vie. Et là, David il dit, Seigneur, non, je ne veux pas être indépendant. Je ne veux pas être désobéissant. Ce n'est pas ce que le monde nous dit. Hein. Aujourd'hui, le monde, c'est chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, s'il le veut. Non ? Et on a toujours des raisons pour dire le contraire de ce qu'on entend. Mais la question là, David il dit, Seigneur, non, loin de moi de vouloir faire autrement que ce que toi tu me demandes de faire. Et ni de regard hautain, c'est avoir une ambition orgueilleuse. Pointer à quelque chose que ce n'est pas ce que Dieu veut nous donner. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des rêves dans la vie. Non ? Je regardais cette semaine l'histoire de ce jeune à qui il manque, hein, et qui s'était mis dans son cœur, dans sa tête, moi je vais faire quelque chose d'incroyable. Et il en a souffert, hein, mais il est arrivé. Et là je me dis que parfois il y a des objectifs, et on a besoin d'objectifs dans notre vie. Vous savez, quand on ne se donne pas d'objectifs, on n'avance pas. Quand on ne se met pas aussi dans le cœur de dire, Seigneur, moi cette année, je voudrais m'améliorer. J'ai tenu ce discours à la jeunesse. Et comme vous êtes tous jeunes, je vous fais le même discours. Amen. Est-ce qu'y a-t-il des jeunes ici ? Très bien. Je vous rappelle que Moïse, à 80 ans, il a été embauché pour servir l'Éternel. Donc, vous êtes encore dans l'âge du service. Hein ? Amen. Mais il est question pour nous de nous dire, Seigneur, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête à prendre des résolutions dans mon cœur parce que j'ai envie d'aller de progrès en progrès. Or, il n'y a pas de progrès si on ne se donne pas des objectifs pour Jésus-Christ. L'apôtre Paul dira, j'oublie ce qui est en arrière, je cours en avant. Un objectif. Quel est votre objectif pour la nouvelle année? On y arrive bientôt, on va commencer à parler des bons principes. Alors, mettez de côté le régime de fin d'année. Hein, parce que généralement, on se fait cet engagement le 24 et le 24 au soir, on l'a déjà tordu le truc. Le 25, on essaie de rattraper. Et la nuit du 31, on lui met un deuxième coup et au 2 janvier, on n'en parle plus du régime. Ça sera pour l'année prochaine. Hein ? Pourquoi faire le régime cette année si on peut le faire l'année d'après ? C'est une philosophie. Mais il est question pour nous, frères et sœurs, d'avoir un regard juste en disant, Seigneur, comment, qu'est-ce que tu veux pour ma vie ? Comment je peux progresser avec toi ? L'apôtre Paul dira à Timothée que tes progrès soient évidents. Alors certains pourraient se dire des choses, ah, on va faire ça pour le Seigneur, je vais faire une marche de je ne sais pas combien de kilomètres. Non, non, c'est pas ça. Le psaume 18, verset 28 te dit, car c'est toi qui sauves les gens malheureux et qui abaisses les regards hautains. Il est question pour nous, frères et sœurs, de rentrer dans cette vision et de dire, Seigneur, loin de moi d'être arrogant, loin de moi d'être hautain, Seigneur, je ne veux pas m'engager dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi, parce que ça pourrait m'amener à des tentatives, à une foi, excusez-moi, ambitieuses et égoïstes. On peut avoir des visions en disant, on va faire des choses, mais le Seigneur ne nous l'a pas demandé. Donc, est-ce qu'on le fait pour le Seigneur ou on le fait pour nous ? Un jour, je discutais avec quelqu'un, il me disait, moi, je voudrais faire telle chose. Et c'était dans le cadre de la louange. Et je lui dis, mais est-ce que tu le fais pour le Seigneur ou tu le fais pour toi ? Je dis, parce qu'à l'église, on n'a pas la Star Academy. Si tu es là pour louer le Seigneur, en effet, il faut que tu disparaisses et qu'on ne voit que le Seigneur. Si c'est pour paraître devant les autres, ce n'est pas le but, n'est-ce pas ? Et David, pourtant, il était roi, il se rend compte dans la position de roi, il avait les regards de tout le monde sur lui. Et vous savez, quand on est dans une telle situation, c'est vite fait de faire monter la mayonnaise. Hein ? La réussite. Vous imaginez de berger à roi. Imaginez que quelqu'un demain matin vient vous chercher. On va te faire président ou roi. On a découvert que tu fais partie de la lignée, c'est toi la prochaine reine d'Angleterre. Eh bien, on peut vite commencer à se mettre de grandes idées dans la tête. Hein, et quand on boit avec le petit doigt vers le haut, hein, pour se donner un style. Après, je ne sais pas si on boit mieux ou ça se permet de viser, je ne sais pas. Hein, l'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel, il n'est vraiment pas là. Et David, il l'a compris. Et alors, qu'est-ce qu'il dira ? Loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Est-ce que dans notre journée, est-ce qu'on arrive à imposer le calme et le silence à notre âme ? Est-ce que vous l'avez fait aujourd'hui ? C'est toujours facile de le faire. J'ai imposé. Vous savez, le fait de rester dans le calme, c'est une source de force. Vous connaissez ce texte qui dit dans le calme et la confiance qui sera votre force. Alors quand à l'extérieur ça crie, quand à l'extérieur ça souffle, quand à l'extérieur les vagues arrivent, il est question pour nous de dire, Seigneur, j'ordonne, j'impose à mon âme de rester dans le calme. Seigneur, j'impose à mon âme de rester dans le silence. David avait compris que c'était une source de bénédiction, tout cela. Premièrement, parce qu'il n'allait pas dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Deuxièmement, parce qu'il gardait son cœur dans le calme. Il n'avait pas de problème de tachycardie. Nous, parfois, on est pris par l'agitation. Vous vous rappelez à qui Jésus dira « Tu t'agites ?» C'était qui ? Alors, vous inquiétez pas, il y avait aussi des hommes qui s'agitaient. Hein. Mais tu t'agites pour pas grand-chose. Et là, choisis la bonne part. Et le fait d'être là ce soir, frères et sœurs, c'est qu'on a fait un choix, malgré toutes les choses qui pourraient nous amener à dire « Mais j'ai autre chose à faire. » Non, non, non. L'important, c'est d'être dans la présence du Seigneur. Et il est question pour nous d'avoir aussi un fruit d'une résolution personnelle. Ce n'est pas facile de s'imposer du silence dans son âme. Même quand on est seul, on est capable de parler. On se parle à nous-mêmes. Ça vous arrive de vous parler tout seul ? Je ne suis pas seul, alors, dans le club. Mais il dit, comme un enfant sevré auprès de sa mère, mon âme est en moi comme un enfant sevré. Ça m'a interpellé parce que le mot sevré veut dire amener à maturité, devenir responsable, n'est-ce pas ? Alors, comme un enfant sevré qui ne réclame plus le lait de sa mère, il est satisfait même en l'absence de ce qui lui paraissait indispensable. Est-ce qu'on est arrivé dans cette maturité de dire, Seigneur, si telle chose, elle n'est pas là, je ne m'inquiète pas, parce que toi, tu prends soin de moi. Sevré de tout ce qui pourrait devenir pour nous un problème et un handicap pour avancer. Ça pourrait faire de nous des enfants, excusez-moi, gâtés. Alors certes, il faut rester comme des enfants. Jésus dira, Marc chapitre 10, verset 15, « En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Mais il est question d'être comme un petit enfant, mais pas comme un bébé. Cette simplicité de dire « Seigneur, j'ai besoin de cela, je te dépose mon besoin et je te laisse faire. » Enfant, mais pas immature. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Un jour, quelqu'un me disait, quand je me suis converti, je demandais au Seigneur, donnez vite. Et quelqu'un m'a dit, profite. Et il dit, je ne comprenais pas. Je priais et la réponse était rapide. Et le frère qui était à côté de moi, il dit, profite. Et je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Mais plus je grandissais dans la foi, plus je priais, des fois les réponses n'étaient pas rapides. Et quand je lui ai posé la question, il m'a dit, bah, je te l'avais dit de profiter. Au départ, un bébé, quand il vient au monde, il demande, et c'est normal que les parents s'occupent de le nourrir. Mais il y a un moment où l'enfant commence à... Et il faut qu'il apprenne aussi à se nourrir, non ? Et qu'il apprenne aussi peut-être à dire ses besoins autrement qu'en pleurant et en hurlant. Si à 40 ans encore, on pleure et on hurle parce qu'on veut, on a un besoin, il y a un souci. Et parfois, excusez-moi, dans nos prières, on peut être un peu comme ça. Seigneur, je n'ai pas eu ça. Et puisque je ne l'ai pas eu, je ne suis pas content. Ça sert encore à quelque chose d'aller prier ? Attention. On peut être un peu comme des enfants gâtés. Vous savez, quand des enfants ils sont pas sages, en général, on les punit. Et ce n'est pas pour autant qu'ils vont avoir ce qu'ils veulent. Non ? Mais il est question pour nous d'être des enfants bien nourris et qui honorent leur père. 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 3. Il dit « Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Un lait non frelaté, ça veut dire quoi, dites-moi? C'est quoi le lait frelaté? Trafiqué? Quoi encore? Ah ben certains, ils vont vous dire, oui, il est meilleur. On l'a trafiqué pour qu'il soit meilleur. Sauf que le problème, c'est que ce n'est pas ce bon lait qui laisse un goût correct dans notre bouche, il va modifier aussi notre croissance. Il va faire quelque chose qui n'est pas bon et la parole de Dieu, il faut qu'on la prenne telle qu'elle est. On n'a rien à rajouter, rien à enlever. Il n'est pas question de faire une parole, excusez-moi, à notre sauce. Il est question pour nous d'accepter la parole de Dieu telle qu'elle est et puisqu'on a considéré que le Seigneur est bon, de dire « Seigneur, ce que tu me donnes, ce que tu me dis, ce que tu fais est bon. » Est-ce qu'on dit « Amen » à tous les textes? Dimanche, on nous a rappelé de ce moment où l'apôtre Pierre entendra par le Seigneur, voilà, tu vois, d'accord, Seigneur, et lui. Hein? Seigneur déjà lui révèle comment ça va se passer pour Pierre. C'est difficile à accepter de dire Amen. Et il dit, et lui, t'inquiète pas, suis-moi. Il y a des fois où le Seigneur on nous dit certaines choses et il ne nous le dit pas pour nous faire peur. Mais juste pour nous dire, tu vois, même dans ces moments-là, je serai avec toi. On aime bien quand une parole ou une prophétie ou une parole de connaissance nous donne quelque chose qui nous fait du bien. Le Seigneur est avec moi. Alléluia. Moi, je vous invite à regarder la parole de Dieu. Dites-moi toutes les fois combien de textes il y a où les prophéties vont forcément dans le sens de dire « Tout va bien, le Seigneur est avec toi, fais ce que tu veux, il te suit, ne t'inquiète pas, tu as raison, tu arriveras, ça sera facile. » Moi, je vois que souvent, quand la parole était donnée, c'était pour avertir du moment d'épreuve et de difficulté. N'est-ce pas? Et certes, il y avait une parole de consolation et d'encouragement. L'Éternel sera avec toi. Et nous, on pourrait être tenté de chercher, et aujourd'hui, il y en a qui annoncent ce qu'on a envie d'entendre, mais Jésus, il nous le dit, et il l'a inclus dans sa parole de faire attention. Attention à ce qu'on entend. L'apôtre Paul dira que dans les derniers temps, il y aura aussi la démangeaison d'entendre ce qu'on a envie d'entendre. Et on se donne une foule d'enseignants. Et c'est le message à la carte. De quoi ils prêchent aujourd'hui? Moi, il y avait une personne qui téléphonait dans le passé. Pas ici. Dans une autre région. C'est qui prêche aujourd'hui? C'est quoi le thème du message? Et un jour, je lui ai dit, je suis désolé, le prédicateur, vous verrez quand il sera sur l'estrade, mais ce n'est pas important. Et le message, mais probablement, c'est ce que vous avez besoin d'entendre. Repentez-vous. Non? Est-ce qu'on cherche le message qui nous rassure ou est-ce qu'on cherche le message qui nous aide à être transformés? Alors, le roi David, il dit, Seigneur, loin de moi de chercher ce qui est trop, ce qui est, je veux la vérité. Seigneur, j'ai besoin de quelque chose de solide qui me permet de tenir le coup. Israël, attends-toi à l'Éternel, dès maintenant et à toujours. S'attendre à Dieu et vivre une foi dépendante. Dépendante. Philippiens chapitre 2, verset 22 dit, vous savez qu'il a fait ses preuves. C'est l'apôtre Paul qui parle de Timothée. Et en lisant ce texte, ça m'a beaucoup plu. Je me dis, Seigneur, donne-nous d'être un peu comme des Timothées. Il dira, vous savez qu'il a fait ses preuves Et comme un enfant auprès de son père, il est consacré avec moi au service de l'Évangile. Quel beau témoignage, non ? Alors, je crois que nous avons, frères et sœurs, à avoir cette attitude de croyant mûr qui laisse de côté les appels d'une ambition charnelle ou matérialiste et se repose en l'Éternel. Alors, nous aussi faisons nos preuves. Nous aussi restons comme des enfants près du Père, quoi qu'il arrive. Il n'y a rien de plus rassurant que de garder la main du Père pour un enfant quand il y a des difficultés. Est-ce que quelqu'un passe par des difficultés ce soir ? Serrez la main du Père. Serrez la main du Seigneur. Ne lâchez pas sa main. Quoi qu'il arrive, rien ne pourra vous séparer de son amour, de sa fidélité, de sa bonté. Et après, il est question, nous aussi, de nous consacrer tout entier à Dieu. Vous savez, parfois, les tempêtes, elles sont là pour nous rappeler à qui on s'est donné. Et dites-vous que certaines tempêtes, l'ennemi, il les fait pour vous décourager de vous engager avec le Seigneur. Et si c'était à cause de ça que vous viviez certaines difficultés aujourd'hui, pour vous décourager, pour vous détourner, vous savez, c'est les mêmes tentatives qu'il a fait avec tout le monde. Satan, il ne change pas de stratégie, hein ? Non ? Et il fait ce qui marche, malheureusement. Pour beaucoup, ça a marché. Alors sommes-nous à être comme David, à dire, Seigneur, garde-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux être comme un enfant sevré. Sevré, qui a grandi. Certes, j'ai besoin de mes frères et des sœurs. Qui n'a jamais besoin d'un frère ou d'une sœur ? Il y a quelques mois en arrière, et j'espère ne plus jamais le revivre, on a été confinés, hein, séparés les uns des autres. C'était horrible. Je ne sais pas vous comment vous l'avez vécu. Hein ? Ah Seigneur, c'est bien un peu de repos. Non, non. Bien évidemment, on avait envie de se retrouver parce qu'on a besoin, pas seulement pour une question visuelle. On sent l'amour qui nous porte les uns les autres. Et là, on va prier. Et on a besoin les uns des autres, n'est-ce pas ? Mais en même temps, ça nous amène, frères et sœurs, à grandir. Les épreuves, elles sont là pour nous faire, pour nous sevrer. Dire, Seigneur, je veux aller jusqu'au bout avec toi. Alors, je vais vous dire ce que j'ai dit aux jeunes, puisque nous sommes jeunes. Je voudrais vraiment vous inviter à prendre des résolutions pour la nouvelle année. Et j'aimerais que l'année prochaine, on puisse dire, voilà, je me suis fixé des objectifs avec le Seigneur et Dieu m'a permis de les atteindre, non pas pour moi gloire, mais pour la gloire du Seigneur. J'avais trouvé que cette chose dans ma vie, c'était trop difficile de m'en séparer, mais le Seigneur m'a aidé. Je trouvais que c'était trop difficile de prendre au moins une heure de prière par jour et le Seigneur m'a aidé. Je ne savais pas comment faire pour lire la Bible ou méditer et le Seigneur m'a aidé. Il y a d'autres résolutions, si vous en voulez, j'en ai trouvé. Alors, accrochez-vous. C'est un jeune homme de 20 ans, 18e siècle, qui écrit 70 résolutions, 19e, merci. 19e siècle, il écrit 70 résolutions. Je l'ai donné aux jeunes. Avec quand ils ont commencé à lire la première, déjà, il y en a qui m'ont dit, c'est chaud, hein. Il s'était fixé comme objectif de passer au moins 13 heures par jour à lire la parole de Dieu et à prier. Première résolution. C'est chaud, hein ? Je dis, continue à lire. Je ne vous dis pas de prendre les 70. Et peut-être qu'il y en aura une qui va vous interpeller. Et le but, ce n'est pas de faire comme les autres. Mais le but, c'est de se dire, Seigneur, moi, je ne veux pas perdre du temps. Moi, j'étais agréablement surpris et bouleversé par la résolution de ce jeune homme, qui s'est vraiment accroché à Dieu et qui a fait un parcours incroyable. Donc si quelqu'un veut les 70 résolutions, je vous les donne, ne vous inquiétez pas. Ça vous fera de la lecture. Après, je ne suis pas sûr que vous allez dormir. Peut-être que vous allez prier toute la nuit. Mais ça va dans le bon sens. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, je veux grandir avec toi ? qui veut grandir. Seigneur, dans ta miséricorde et dans ta bonté, tu ne lâcheras jamais notre main parce qu'on sera toujours tes enfants. Mais tu veux, Seigneur, qu'on puisse grandir, qu'on puisse, Seigneur, développer, Seigneur, premièrement, cette attitude d'enfant qui dépend de son Père. Seigneur, avec simplicité, il vient et demande en sachant que ce que son Père lui donnera, ce sera le meilleur. Seigneur, encore ce soir, dans nos prières, Seigneur, nous sommes certains que tu nous accorderas le meilleur. Seigneur, tu ne nous abandonnes pas dans nos difficultés, dans nos épreuves, mais tu les traverses avec nous, Seigneur. Et en même temps, Seigneur, tu désires que nous puissions grandir dans notre foi, grandir dans notre engagement, nous aussi faire nos preuves, Seigneur. Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui nous ont précédés, pour tous ces hommes et des femmes de foi, Seigneur, qui ont mis leur vie entre tes mains, Seigneur, et qui ont été des exemples. Mais nous aussi, nous voulons laisser, Seigneur, aux générations à venir un exemple d'un peuple qui s'est attaché à Dieu, d'une Église qui a été, oui, toujours attachée au nom du Seigneur. Et là où nous avons, Seigneur, été trop faibles, là où nous avons été, Seigneur, fragiles, là où nous n'avons pas su faire, Seigneur, merci pour ton pardon, merci pour ta compassion, merci de nous aider, Seigneur. Seigneur, merci parce qu'encore ta parole vient, Seigneur, travailler notre cœur ce soir. Et tu désires, Seigneur, que ceux qui peut-être se sont arrêtés dans la marche se relèvent. Que ceux qui sont fatigués par la marche, Seigneur, puissent chercher en toi, Seigneur, des forces nouvelles. Seigneur, ceux qui n'ont peut-être encore pas commencé la marche, mais qui prennent la résolution, Seigneur, de te dire, Jésus, je veux te suivre. Pas dans l'avenir, maintenant. Seigneur, je voulais te suivre. Non, c'est pas ça. Maintenant, Seigneur, je veux te suivre. Je veux être avec toi tous les jours de ma vie, comme toi, tu as promis d'être avec moi tous les jours, Seigneur. Merci, Seigneur, que ta parole puisse encore travailler en profondeur notre cœur, s'il te plaît. Amen. Alléluia.